Bon, bonsoir. Par respect pour les gens qui sont là à l'heure et qui travaillent demain, et dans le public, il y en a sans doute aussi. Et puis pour le respect des personnels de Mendès France qui nous accueillent tous les soirs, on va commencer à l'heure. Ça nous permettra de terminer à l'heure. Donc, je suis heureux de vous accueillir pour cette deuxième soirée de la semaine d'info, de la 21e semaine d'info sur la santé mentale, donc organisée par l'UNAFAM de la Vienne. Donc, l'UNAFAM, pour ceux qui ne connaissent pas encore, association reconnue d'utilité publique depuis plus de 40 ans, plus de 13 000 adhérents au niveau national et environ 80 dans la Vienne. Partenariat, bien sûr, avec l'espace Pierre Mendès France qui nous accueille, comme tous les ans, gratuitement et qui met son personnel à notre disposition. Partenariat cette année avec le Dietrich, j'ai mis la page d'accueil du Dietrich en cette fin de semaine des choses intéressantes que je vous convie à aller voir avec demain et vendredi animation par le réalisateur des deux films de demain, Jean-Michel Carré, et une équipe de praticiens hospitaliers et infirmiers psy du centre hospitalier de Niort vendredi, à l'occasion de la projection du film de John Cassavetes, dont j'ai oublié le titre. Je pense qu'à ça, mais j'ai oublié le titre. C'est pas grave. Une femme sous influence. Et donc nos deux intervenantes ce soir, le service insertion de l'UDAF avec son chef de service Patrick Gentil, et sa psychologue chargée d'insertion, Magali Coulombier, psychologue du travail. Et donc au cœur de nos problématiques, puisque parmi les 6 points du plan d'urgence de l'UNAFAM, il y a le dernier qui est l'activité, qui n'est pas forcément professionnelle, mais quand elle peut être professionnelle, c'est pas mal. Et donc c'est de ça qu'ils vont nous parler. Comment est-ce qu'ils accompagnent les gens en situation de difficulté psychique et comment ils nouent des relations avec les employeurs potentiels et comment ils les fidélisent. C'est bien ça? Bon, bah j'ai bon, donc je vous laisse la parole.
Bien, ça marche? Ça marche, oui. Alors, on est très content d'intervenir pour parler de quelque chose qui nous tient à cœur, qui est de l'insertion professionnelle et notamment comment, parce que c'est des questions qui reviennent de façon récurrente, comment on parle du handicap à l'entreprise. Et alors, ça revient de façon récurrente de la part des familles, mais ça revient aussi de la part de la personne elle-même qui s'interroge beaucoup sur ce qu'on peut dire d'elle. Voilà, donc c'est un questionnement qu'on peut avoir au niveau du service. Alors, on a essayé de travailler sur quelque chose. On n'est pas des universitaires, hein. On est des travailleurs sociaux et on attend plus quelque chose de l'ordre de l'échange, hein, sur les questionnements que vous pouvez avoir par rapport à ça. Alors, simplement vous dire que nous, le travail qu'on peut réaliser, c'est avant tout un travail qui est multipartenarial, hein. Sport 86 n'est pas quelque chose qui est en orbite comme ça, mais c'est une convention, parce qu'hier soir, on parlait justement de la prise de conscience par rapport au handicap psychique. Et là, c'est vraiment quelque chose qui démarre, non, puisque ça a quand même 5 ans d'existence. Mais c'est dû aussi à un partenariat avec l'AGEFIPH, le Conseil général, la Direction départementale de l'emploi et de la formation professionnelle, Pôle emploi, le Centre hospitalier Henri Laborie, bien entendu, et la MDPH. Donc voilà, ce n'est pas quelque chose qui tombe comme ça. Bien entendu, un partenariat avec l'UNAFAM, puisque si on existe, c'est aussi grâce au travail avec l'UNAFAM. Alors, par rapport, nous, ce dont on est chargé, c'est d'accompagner les personnes dans la construction d'un projet professionnel cohérent. Cohérent en fonction d'un marché du travail qui a ses aléas, cohérent en fonction des compétences de la personne et cohérent en fonction du handicap. Ce qu'on essaie de faire, là, on a développé au niveau du service une double offre de service qui est tout à fait dans le sujet de ce soir, qui est ce qu'on peut dire aux entreprises, puisqu'on a une offre qui s'adresse à des travailleurs handicapés, hein. Et je sais qu'hier soir, on a eu une longue discussion par rapport au statut de ce handicap. Et par rapport aux entreprises, une offre aux entreprises qui concerne de l'infosensibilisation par rapport au handicap psychique, qu'est-ce que c'est? et sur de la formation de tuteurs, aussi en entreprise, et aussi sur du maintien dans l'emploi. Voilà. Alors avant tout, ce qu'on peut dire, nous, sur l'accompagnement qu'on peut proposer, alors on est en questionnement sur ce qui est dit, ce qui est fait, comment on parle de la personne. Ce qu'on souhaitait nous dire avant tout, c'est que notre travail, c'est d'abord une rencontre avec une personne, avec une histoire, avec des forces, avec des faiblesses, et en somme avec un potentiel. Ce qu'on va essayer de faire, c'est, quand je disais tout à l'heure, définir un projet professionnel cohérent, c'est aussi travailler avec tout ce que la maladie n'a pas altéré sur le plan des habiletés professionnelles et des habiletés sociales. Alors ce travail demande du temps. Quand on reçoit la personne en entretien, on ne reçoit pas quelqu'un qui va être étiqueté de schizophrène, quelqu'un qui va être étiqueté de trouble bipolaire. On reçoit une personne avant tout, elle nous parle de sa maladie si elle a envie de nous en parler, mais c'est quelque chose sur lequel on va questionner. On va plus s'intéresser aux freins, en fait, hein, à ce qui va limiter la personne dans l'exercice d'une profession, dans une tenue de poste de travail. On va aussi l'accompagner, alors là c'est un long travail, on l'a aussi abordé hier dans le deuil de l'ancien métier. Hein. Forcément, on ne va pas pouvoir, si on a un BTS de compta gestion, forcément pouvoir exercer ce métier-là. Donc on va aussi accompagner dans ce long travail qui peut demander 6 mois, comme il peut demander 1 an. Hein. Voilà. On va en fait, notre travail va consister à dresser un bilan de la personne en termes de compétences. On va essayer de se concentrer là-dessus, sur les compétences, ce qui va être mobilisé et ce qui va remobiliser la personne elle-même. Alors je vais revenir en arrière, parce que j'avais une citation que j'avais envie de vous livrer, qui existe dans un ouvrage qui s'appelle « Qu'un guide pratique pour l'insertion et le maintien dans l'emploi des personnes handicapées psychiques » aux éditions Clarèche. Je pourrais vous donner les références exactes tout à l'heure, mais qui est riche d'enseignements. Et il y a une belle citation d'André Comte-Sponville, qui donne à réfléchir, hein, qui nous dit, enfin nous ça va être la base de notre travail, on dit que le chômage est un malheur, mais avez-vous vu que le travail soit un bonheur? C'est vous dire, je crois que c'est très d'actualité aujourd'hui, c'est de se dire, aller travailler, mais c'est pas aussi simple qu'on aimerait le faire. Hein, ça va. La citation, c'est le chômage est un malheur, mais où avez-vous vu que le travail soit un bonheur? Hein, enfin, je trouve que c'est quelque chose qui est très actuel. C'est nous, quand on reçoit une personne, effectivement, la demande de travail est très forte. Le travail va être de voir si cette demande de travail est une demande aussi de normalité, si c'est dû à une pression sociale, à une pression familiale, à une pression... Voilà. Parce qu'il faut que la personne, que ce soit un projet vraiment que la personne défende. Enfin, je trouvais que cette citation était aussi importante compte tenu du contexte économique actuel. Et il faut l'avoir en tête. Ce que je voulais dire aussi, et Magali interviendra quand elle le souhaite, c'est que dans la démarche nous, qu'on propose aux personnes accompagnées, on considère l'entreprise, puisque c'est l'objet aussi ce soir, c'est comment on parle à l'entreprise, on considère l'entreprise comme la famille, comme un partenaire de l'insertion professionnelle. Hein, c'est vraiment, je le disais hier, autant la famille a une connaissance de l'histoire de la personne, et qu'il faut qu'on tienne compte. Parce que nous, on peut avoir en tant que travailleurs sociaux une connaissance des compétences de la personne, de ce qui peut être mobilisé, des potentialités, mais la famille a connaissance de cette histoire. Et autant que faire se peut, nous, la famille est associée à toutes ces démarches, de même que le soin, puisque nous, notre travail aussi est toujours jalonné d'avis du soin. Alors, ce qui amène à quand on prend contact avec l'entreprise, ce qu'on peut dire, puisque c'est aussi ça, ce qu'on essaie de faire, c'est de présenter la personne avec des compétences. Hein, on présente le service, l'entreprise va savoir qu'on accompagne des personnes en situation de handicap, ça ils le savent. Mais ce qui est important, c'est de dresser un tableau de la personne avec des compétences. Alors ce travail-là, ça va questionner l'entreprise par rapport aux représentations qu'ils ont du handicap psychique et de la maladie mentale. Forcément. Parce que forcément, ce qui est véhiculé, on l'a aussi abordé hier, c'est par les médias. Et notre travail va être de démystifier un peu tout ça. Et quand on avance sur les compétences, quand on avance sur le savoir-faire, quand on avance sur l'expérience professionnelle que la personne a pu faire, les idées changent. Alors je reprendrai simplement un slogan de la GFIP. On peut critiquer la GFIP, mais je crois qu'il y a des choses qui sont très bien. Et nous, on le voit par rapport à l'insertion qu'on peut faire en entreprise. C'est 93% des entreprises qui ont recruté un travailleur handicapé en situation de handicap psychique sont satisfaites de l'avoir fait. Et ça, je crois que c'est important.
Oui. Donc concernant les représentations que peuvent avoir les employeurs, c'est vrai qu'on a quand même pas mal de retours qui nous amènent à penser qu'il y a beaucoup de confusion, qu'il y a des préjugés aussi qui sont présents. Et nous, on va pas arriver avec une idée toute faite et un grand discours sur le handicap. Simplement, on va essayer de mieux connaître la représentation des employeurs et puis d'essayer de démonter un petit peu ces préjugés. C'est vrai qu'on a pu avoir des retours d'employeurs qui, quand on leur demande ce qu'est pour eux le handicap psychique, qui vont par exemple faire la confusion avec le handicap mental, donc avec la déficience intellectuelle. Ça, c'est quelque chose qui est très présent dans les représentations. On va avoir aussi des craintes par rapport à des comportements violents. Et on sait aussi que c'est vraiment une minorité de situations où la personne peut se retrouver à avoir un comportement violent. Donc voilà, tout ça, c'est des choses dont on va pouvoir parler avec les employeurs en fonction vraiment de la représentation qu'ils peuvent avoir. Donc encore une fois, tout est, Patrick parlait de partenariat, donc tout est dans le dialogue, dans l'échange. Et donc nous, quand on aborde les employeurs, on n'arrive pas avec, comme on le fait ici d'ailleurs, on n'arrive pas avec un cours magistral en disant voilà ce que c'est que le handicap, voilà comment il faut faire. Mais on va vraiment être dans l'échange.
Je crois que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de règle par rapport à ce qui peut être dit par rapport au handicap. On est aussi, c'est abordé aussi hier, on est au niveau du service aussi beaucoup sur l'expérimentation. On ne peut pas dire une insertion va fonctionner ou elle ne va pas fonctionner. On va essayer d'abord. Je crois que ça, c'est aussi important. Alors, ce qu'on essaie de faire, nous, par rapport à l'entreprise et à la personne en situation de handicap psychique, alors j'ai souvent employé le mot handicap psychique parce que, alors, mais ça, c'est pareil, hein, hier, je l'ai entendu, c'était pas forcément bien vécu, hein, alors que nous, on le vit complètement différemment. Ben oui. C'est pas forcément de l'autre côté, c'est que nous, on le voit, pas comme une étiquette, et c'est ce qu'on essaie de faire vivre aux personnes, mais c'est une aide par rapport à l'adaptation au poste de travail et aux aides compensatrices. Alors, les aides compensatrices, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être d'abord notre intervention, hein. Ça peut être notre intervention dans le cadre de la construction du projet, ça peut être notre intervention dans le cadre du maintien dans l'emploi, hein. Ça peut être notre intervention dans le cadre de l'aménagement de poste, hein. Alors, aménagement de poste, on n'imagine pas toute une batterie d'outils, hein, mais plus sur de l'aide organisationnelle, hein, la mise en place de fiches techniques et autres. Donc, voilà, c'est pour ça que j'aurais insisté par rapport à cette notion de handicap. Ce qu'on essaie de faire, nous, avant tout, on n'arrive pas effectivement but en blanc en présentant ce que c'est que le handicap psychique. Ce qu'on va essayer de présenter avant tout, je le redis, et c'est dans notre fonctionnement, ce sont les compétences de la personne. Alors, on va les mettre en valeur au travers d'un CV qui soit refait et qui mette en valeur toutes les expériences de la personne. On ne fait pas de CV ciblé, par exemple, pour ceux qui savent un petit peu ce que c'est. On va travailler avec la personne sur comment elle peut se mettre en valeur lors de l'entretien. Et pour moi, là, on est dans de la communication. Hein. Et on va l'aider à obtenir une immersion d'entreprise, puisque c'est ça. Je crois que les entreprises attendent, malgré l'image qu'on peut avoir de certaines entreprises, ils attendent des compétences. Hein. À partir du moment où on va leur montrer que la personne a des compétences, je pense qu'on peut changer le regard aussi par rapport à ça. Quand on a une personne qui va arriver en entreprise et pour laquelle on va pouvoir avoir démontré les compétences qu'elle peut avoir, là, le dialogue va pouvoir s'installer. Et on va pouvoir aborder ce que c'est, ce en quoi la personne est freinée et limitée à la tenue au poste de travail, par exemple. Et je crois qu'on va pouvoir proposer, avec l'expérience qu'on a, des compensations, entre autres,
des aménagements, des conditions qui sont adaptées et qui vont permettre à ce que le poste, que la personne soit bien dans son poste et à ce que ça soit durable. Je crois que ce qui est important, c'est que les employeurs sont rassurés aussi par cet aspect-là, c'est-à-dire de savoir qu'il y a des conditions que eux peuvent mettre en place, qu'ils ont un rôle aussi à jouer et qu'il y a des conditions qui peuvent être adaptées pour que ça se passe bien. Puisque c'est ce qu'ils craignent aussi, c'est on est face à une situation qu'on ne peut pas gérer, on ne peut rien faire. Donc le fait de savoir que le fait de par exemple, d'aménager des horaires de travail, d'aménager des pauses, après tout dépend de la personne, de la situation de travail, mais je crois que ça aussi, ça rassure les employeurs. Oui.
Est-ce qu'on peut dire que l'employeur embauche plutôt un système que la personne, puisqu'elle vous embauche vous, elle embauche votre accompagnement qui la rassure, elle n'embauche pas la personne handicapée psychique que vous avez nommée, puisqu'elle embauche votre travail et une assurance comme quoi vous accompagnez la personne en question. C'est une question que je me pose.
Moi, je pense que l'entreprise embauche la personne du fait des compétences qu'elle a, mais que par contre, c'est vrai qu'elle est rassurée du fait de l'accompagnement qu'on peut proposer et du suivi en emploi qu'on peut proposer. On travaille avec des entreprises. Le suivi en emploi, il se met en place de manière très différente en fonction des entreprises. Il y a des entreprises qui ne vont pas forcément accepter qu'on vienne une fois par mois les rencontrer pour faire le point sur la situation, mais simplement qui vont faire appel à nous si à un moment donné, elles ont une question ou il y a une situation conflictuelle à gérer. Et le fait de savoir qu'on est là, ça va les rassurer. Mais elles vont quand même de toute façon passer par la personne et dialoguer avec la personne. Et voilà, on est un interlocuteur supplémentaire, on est un soutien. Mais je crois que c'est une aide. Mais en tout cas, nous, ce qu'on défend, c'est que c'est bien la personne qui est embauchée avec ses compétences.
C'est un peu raccourci. Enfin, ce que je disais au début, c'est qu'avant tout, nous, l'accompagnement qu'on propose, alors qu'on soit clair sur l'accompagnement, c'est les personnes nous sont orientées par Pôle emploi pour une prestation d'accompagnement spécifique qui est tout à fait légitime pour des personnes en situation de handicap psychique et qui rentre, à mon sens, dans le cadre de la compensation. Donc on accompagne ces personnes à une redéfinition d'un projet professionnel cohérent, je l'ai dit tout à l'heure, qui soit cohérent avec le marché du travail, avec les problèmes liés à la maladie, les goûts personnels aussi. On va accompagner cette personne-là et je n'ai pas l'impression qu'on vende à un moment donné notre travail. Au contraire, notre travail, c'est vraiment d'accompagner la personne dans ce qu'elle souhaite. Après, ça marche, ça ne marche pas. L'année dernière, 2009, nous a montré qu'on a des gens qui sont arrivés avec un projet et le contexte économique fait tel que ça n'a pas abouti parce qu'en l'absence de postes qui puissent correspondre. Par contre, ce qu'on vend en entreprise, effectivement, ce qu'on va négocier en lui disant, voilà, vous recrutez, l'offre de service qu'on peut proposer, nous, c'est un accompagnement en entreprise qui, pour nous, est financé un an et demi, d'accord ? Mais qu'on continue pour certaines personnes, il y a des personnes qu'on accompagne depuis 4-5 ans. Pour lesquels on n'est pas financé. Mais on défend l'idée que le maintien dans l'emploi ne peut se faire qu'à partir du moment où on accompagne. L'entreprise ne peut pas, et ça, c'est logique, enfin, recruter quelqu'un qui peut avoir des difficultés à un moment donné, se retrouver toute seule à gérer ça. Il y a des entreprises qui savent très bien qu'il y a un problème d'embauche en retard, par exemple. L'entreprise va nous appeler. Il y a un partenariat qui se fait, qui est tel que l'entreprise a nos coordonnées. On essaie d'être réactif dans les 24 heures. D'accord ? D'intervention, ce qui est relativement rapide. Et souvent, ça peut se passer par téléphone, puisque les inquiétudes sont telles qu'on peut, on peut désamorcer par téléphone. Bon, le plus souvent, on aime se rendre en entreprise, puis se montrer notre présence et montrer qu'il y a quelqu'un qui accompagne aussi la personne. Et ça, c'est important. Et que ce soit dans tous les secteurs d'activité, autant public que privé. On a des personnes qui sont en collectivité, qu'on accompagne, des personnes qui sont dans le privé, qu'on accompagne. Et je crois que le maintien dans l'emploi se fait qu'à ce titre-là.
Merci. Pour embaucher un travailleur handicapé, parce que moi j'ai été comme ça pendant 15 ans, hein, ils ont su en profiter et quelquefois ça marche, la preuve. Alors ils ont quand même des avantages, c'est ça qu'il faut dire aussi.
Ben, bien sûr, mais c'est caché par personne, il y a des avantages, bien sûr.
Moi j'étais, quand je leur ai lancé, ils étaient contents. Il doit y avoir des points de charge.
Voilà, il y a une exonération de charges patronales, il y a des primes à l'insertion, mais il y a des primes à l'insertion qui bénéficient autant à la personne elle-même qu'à l'entreprise. Voilà, mais il faut savoir, alors il y a des aides qui peuvent être supplémentaires, qui sont l'aide à la compensation de la lourdeur du handicap, par exemple, hein, qui est une aide financée par la DTEFP, par exemple, Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, qui peuvent permettre des aménagements de poste. Hein, ça veut dire... une perte de rendement, puisque la personne est plus fatigable. On sait très bien que les personnes qu'on accompagne sont fatigables, ont des difficultés de mémorisation. Hein, quelqu'un qui a un poste de production, par exemple, ça peut être compliqué. Donc on peut apporter des aides qui vont venir compenser cette difficulté-là. Hein. Bon, on a très peu, ça nous arrivait, mais on a très peu à mobiliser cette aide. Hein, ce qui montre bien que les gens qu'on accompagne ont des compétences.
Les patrons, en fait, ils ne m'ont pas cherché d'oise pour ça. Hein. Ils m'ont laissé travailler jusque vraiment...
Ah, mais heureusement qu'on n'intervient pas partout.
Mais bon, j'étais obligé de caler, comme on dit, parce que la maladie, quand même, est plus forte que tout, quoi. Voilà.
Oui, mais ce matin encore, à 8h30, je vais rentrer dans le détail de ma journée. Hein. J'étais dans une entreprise, et c'est quelqu'un que je suis depuis 5 ans, qui est dans cette entreprise-là, mais on se rencontre une fois par mois... toutes les 5 semaines, et c'est devenu quelque chose de régulier. L'entreprise sait que je viens, la personne elle-même aussi, ça a quelque chose de rassurant. J'y vais, en fait, je fais beaucoup de travail quand j'y vais. Hein. On fait le point sur comment s'est passé le mois, sur les aménagements à faire. Et des fois, il n'y a pas grand-chose. Hein. Mais je crois que le fait de faire la démarche, d'aller en entreprise, de rencontrer, ça montre une présence. Je crois que c'est quelque chose qui est rassurant. Hein. Mais mes collègues font la même chose. Hein. Je parle, mais elles peuvent parler aussi. Hein.
Oui, mais je crois que c'est rassurant aussi bien pour la personne, pour le salarié, que pour l'employeur. Et en effet, comme dit Patrick, parfois on fait vraiment pas grand-chose. Mais le fait d'être réactif, d'appeler, de désamorcer, parfois c'est vraiment rien du tout. Mais voilà, le fait de pouvoir discuter de la situation, avoir un avis... et puis qu'on se déplace, qu'on soit là, qu'on écoute, ça permet parfois de désamorcer et que ça aille bien. Quoi.
Alors, je... Oui, pardon.
D'abord, il me semble, comme vous l'avez dit tout à fait au début, est-ce qu'on a envie de travailler ou pas ? Parce que je crois qu'aujourd'hui, surtout avec la crise, il y aura besoin de rendement. Et il s'agit d'avoir envie de travailler et de savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et ça, on n'a pas forcément tout le choix, surtout dans la région de Poitiers. L'envie de travailler, et d'abord de pouvoir élaborer, c'est qu'à dire faire naître son choix. Et dans le choix, c'est pas facile. L'envie de travailler, il faut se trouver, à mon avis, dans un contexte. Je dirais même que moi-même, je suis handicapé, mais handicapé quand même, qui ne le suis plus puisque je suis à la retraite en vivant de mon travail. Et je suis employeur. Je suis employeur, pas gros employeur, mais disons que j'ai employé des personnes pour chez moi, pour faire différents travaux dans une maison, et j'ai dépensé environ 2000 euros. Je ne suis pas un gros employeur. Ben, écoutez, je suis assez difficile, je ne regarde pas, j'ai essayé d'employer des handicapés, pas des handicapés, disons, au fil d'Ariane, je ne le cache pas, je n'ai trouvé personne, parce que tout compte fait, ce n'est pas un milieu qui est d'ambiance pour travailler. C'est un milieu fait pour s'amuser, pour rigoler, pour se faire du plaisir. se faire du plaisir. Je vous dirais que c'est la même chose, j'ai fait paraître même une annonce à l'association, pourquoi pas ? Qui est une association, certes, d'un restaurant associatif, mais où il y a beaucoup d'handicapés. Je n'ai eu personne, j'ai mis évidemment mon numéro de téléphone, je n'ai eu personne. Parce que, disons, les gens ne sont pas dans une ambiance faite pour travailler. Et puis, ils ne sont pas motivés peut-être pour gagner de l'argent. Il y a de l'argent un petit peu, pas beaucoup, sur certains qui viennent avec de l'âge. Mais on vit quand même plus ou moins bien, comme vous dites... on s'arrange. Et il me semble, de toute façon, qu'au départ, pour faire naître le désir et savoir, c'est d'avoir une petite formation, du genre un petit peu peut-être comme la FPA. Et j'ai suivi d'ailleurs un moment où j'étais au chômage, la FPA, mais pas dans l'handicapé, parce que je ne sais pas si ça existe, la FPA. Ou peut-être quelqu'un peut choisir parmi différents corps de métier quelque chose qui peut lui plaire et faire un travail qui ne soit pas un travail forcément de série, qui soit abêtissant, un travail où il trouve un certain plaisir, un épanouissement. D'autre part, je vous parlais toujours d'employeurs, mais ça diable, il n'y a pas que des employeurs. Pourquoi est-ce que, et j'y ai pensé depuis longtemps, surtout à mon âge où j'ai près de 70 ans, faire par exemple un genre de... comment je dirais, de société, de coopérative de travail, où chacun pourrait travailler un petit peu comme les sorts, mais sauf qu'il n'y aura pas cette inquisition qu'il y a de gagner, d'obliger de gagner, de travailler 8 heures par jour, un groupement de travail, des petits groupements de travail, disons, se mettre un petit peu à son compte, mais surtout ne pas être seul, être toujours stimulé dans un milieu stimulant. Et il y a peut-être cette méthode de s'y avoir. Il n'y a pas seulement l'employeur. D'autre part, je dois dire que vous parlez de l'employeur, mais il y a aussi les employés, parce que j'étais employé, bien sûr, comme d'autres, hein, mais les autres ne rigolent pas. Par exemple, j'ai été en 70, j'étais même ingénieur. J'ai eu de la part d'un technicien qui n'a jamais voulu me donner des cotes, des brides ASA qui relient des gros tuyaux de 10 ou 20 cm de diamètre. Il n'a jamais voulu me donner, parce qu'il savait que j'étais... handicapé, j'étais même en psychanalyse à ce moment-là, et toujours, mais il n'a jamais voulu me donner, parce que quand je suis handicapé, puis peut-être que ça y avait, je ne sais pas si je passais par la tête. Voilà.
Désir et travail, et comment est-ce qu'on passe du... Comment est-ce qu'on fait naître un désir, comment on conforte un désir, et comment est-ce que...
Enfin, on va pas faire naître un désir, on va accompagner un désir. Hein, je crois que c'est ça. Oui. Parce que je vais perdre le fil, hein, vous savez.
Je sais bien qu'on n'y vient pas pour travailler, on vient pour s'amuser en priorité. On pense comme ça. Et c'est après, au fil des jours, c'est sûr, des mois, des années, on finit par progresser un peu.
C'est l'essence même de notre travail, essayer de faire en sorte que les gens prennent du plaisir à y travailler. Alors, pour répondre un peu à monsieur, notre intervention, elle va consister à accompagner des personnes à retrouver un projet, parce que le travail, c'est quoi ? C'est avoir un rythme de vie. Il nous est arrivé d'accueillir des personnes qui n'avaient plus du tout de rythme de vie. On se levait à 5 heures, on se levait... Donc, on ne va pas aller au travail du jour au lendemain. Donc, l'accompagnement, ça va être de... Alors, grâce à... Alors, là aussi, hein, c'est ce qu'on a essayé de faire mettre en place dès le départ, et on a été suivi par le Conseil général, heureusement, on a pu faire de l'accompagnement social. C'est-à-dire permettre à des gens de se réinvestir dans de l'associatif dans un premier temps, c'est-à-dire apprendre à avoir des rendez-vous. Alors, ça commence par, nous, on fixe les premiers rendez-vous l'après-midi. Au fur et à mesure de l'accompagnement, on va placer les rendez-vous le matin. On va demander à la personne de s'investir dans de l'associatif l'après-midi. On va pouvoir mettre des choses en place le matin. Tout ça pour travailler, ça peut paraître bête, hein, mais on travaille sur le rythme de vie, en fait. Hein, et apprendre à la personne à retrouver un rythme diurne. C'est ça, un diurne, c'est nocturne. Je peux me tromper. Et à retrouver un équilibre là-dedans. Alors après, le plaisir qui peut être pris au fil d'Ariane, on trouve ça important, parce que nous, on travaille avec le fil d'Ariane, on travaille avec l'accordé, et je trouve que le travail n'est pas une fin en soi. Hein, on ne peut pas aller au travail si on n'a pas un équilibre sur le plan affectif, sur le plan social, sur le plan du logement, sur le plan... Donc on va essayer d'accompagner la personne dans tous ces secteurs-là aussi, avant d'aller au travail, puisque quand on va au travail et qu'on n'est pas disponible... Je sors un peu du débat, mais bon, c'est important aussi... Voilà, mais voilà, en plus. Et si on n'est pas disponible dans sa tête pour se concentrer sur le travail, ça ne va pas le faire. On sait très bien qu'on va à l'échec. Hein. Donc on va travailler ces différents points. Et je crois que, avant toute chose, réapprendre à prendre du plaisir, c'est hyper important. Hein, puisque après, ça permettra de peut-être en prendre en allant travailler. Hein. Et alors on travaille, et je finirai par rapport à votre marque, par rapport aux entreprises, c'est qu'on a un réseau, on commence à avoir un bon réseau d'entreprises. Il y a des entreprises avec lesquelles on ne travaille pas, hein, puisque des entreprises qui ne veulent pas collaborer, puis peu importe. On préfère les entreprises qui nous disent non plutôt que des entreprises qui nous disent oui, peut-être, et hein, c'est pas la peine. On essaie de travailler avec des entreprises qui sont volontaires dans ce travail de partenariat, hein, pour cette reconnaissance des compétences. D'accord ? Et pour l'instant, ça fonctionne. Hein ? Je crois que c'est ce qui est important. Je voudrais revenir aussi sur une chose. Quand on parlait sur la communication par rapport à la maladie, quand on reçoit une personne, elle nous est orientée la plupart du temps par Pôle emploi. Il nous arrive qu'elle soit orientée par le médecin. À aucun moment, on va demander ce dont souffre la personne. D'accord ? On a des dossiers qui sont accessibles à la personne. D'accord ? On va noter si on trouve que c'est important dans l'accompagnement, ce dont elle souffre, si elle nous le dit. Là, aucun cas, on va chercher à le savoir. Hein, on va essayer, parce que heureusement, on a un peu d'expérience par rapport à ça. On va très vite voir un peu ce qui peut gêner la personne dans sa construction de projet, dans son insertion d'entreprise. Et on va travailler là-dessus. On va vraiment s'intéresser à ce qu'on appelle, nous, l'handicap psychique. Voilà. Alors, c'est pour ça, je disais en introduction qu'on allait être amené à en reparler et reparler. Je crois que c'est là-dessus qu'on va travailler. Et ça va nous arriver de le nommer avec la personne. Hein. Puisqu'à partir du moment où c'est nommé, mais qu'en face, on y met du sens. Hein, parce que pour nous, l'handicap psychique, c'est vraiment ce qui va gêner la personne dans son insertion professionnelle. Et comment on va pouvoir, et quelle parade on va pouvoir y donner. Hein, voilà. Non, alors il n'y a pas d'entre. Enfin, je pense que vous voulez faire allusion aux entreprises adaptées, qui étaient les anciens ateliers protégés, là, qui emploient effectivement, qui sont des entreprises de production et qui emploient que des travailleurs handicapés. Hein, voilà. Après, mais le travail peut se faire de multiples façons. On travaille aussi pas mal, nous, avec les chantiers d'insertion, qui sont des bons tremplins à l'insertion des personnes, qui leur permet, là encore, je parlais de rythme de vie tout à l'heure, ça leur permet de se relever avec un temps partiel. Hein, donc c'est 20 heures, la plupart du temps, 20 heures semaine.
20 à 26 heures.
20 à 26 heures. Et c'est leur permet de reprendre du rythme. C'est sur des contrats de 2 ans. Donc on travaille aussi pas mal avec eux. Mais ce dont vous vouliez parler, ce sont sans doute les entreprises adaptées. Il y en a très peu sur le département et elles sont actuellement en souffrance. Après, c'est des choix individuels. Quoi, après.
Je crois, oui. Ouais. C'est pas...
Je voudrais souligner, vous avez dit, c'est des contrats aidés de 2 ans.
Donc, ce sont des contrats aidés de 2 ans. Vous ne pensez pas que c'est choquant? Vous voulez insérer une personne, mais finalement, vous lui dites, attends, tu vas travailler pendant 2 ans, hein, après c'est fini. Parce que l'entreprise, elle va prendre quelqu'un d'autre pour profiter des avantages. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, finalement, le handicap n'est pas d'être surdiplômé, d'avoir des mentions très bien, et finalement, on ne retourne pas un peu la société pied en l'air?
Les chantiers d'insertion qui accueillent des personnes qu'on accompagne n'ont pas d'aide. D'accord? Par rapport au handicap. Ils ont des aides à la DDTEFP, mais pas par rapport au handicap. D'accord? Puisque ce sont des chantiers d'insertion. Le contrat de 2 ans, il faut le voir pas comme une fin en soi, mais comme une étape. D'accord?
Il y en a beaucoup qui le voient comme une étape.
Non, non. Enfin, je garde mes convictions. Mais je crois qu'on peut le voir. On peut pas tomber sur un CDI du jour au lendemain. Ça nous arrive, mais c'est quand même rare actuellement. Mais ça peut nous arriver. Je crois que plus on va multiplier les expériences, plus on va construire et conforter une personne dans ses compétences et dans son... dans ce qu'elle va pouvoir, dans ses habiletés, hein, qu'elle va pouvoir présenter en entreprise, plus on va favoriser ces changes d'une insertion durable. Puisque notre objectif, c'est vraiment ça. On va saisir des outils de droit commun, hein, ce qu'on appelle les outils de droit commun, que ce soit le contrat aidé, que ce soit les formations et tout. Mais notre but, c'est vraiment d'accompagner ça de façon durable. C'est vraiment ce pourquoi on milite, enfin, au sein du service. Hein. Effectivement, on passe par les contrats aidés, parce que ce sont des outils, avant toute chose. Ce qui permet à la personne de reprendre confiance en elle, puisque je dirais 98% des gens, des personnes qu'on accueille, ont un gros doute en leur capacité. Et le contrat aidé va leur permettre de reprendre confiance en elle. Parce qu'on aura beau leur dire, mais si vous êtes capable, il faut que la personne aille se rendre compte par elle-même.
Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu du type d'entreprise et peut-être aussi un aperçu de la population que vous accueillez, enfin du style, voilà, ils sont diplômés à bac moins 19 ou à bac plus 25, de ce style, enfin j'exagère tout, mais
bac plus 25,
c'est
oui,
pour me faire comprendre.
Ouais. Non mais j'entends. Alors le public qu'on accueille va, enfin, ça peut aller à partir de 18 ans, mais bon, majoritairement c'est à partir de 22 ans, de 22 à 56. Ça peut aller jusqu'à 56, bien que 56 ça soit très difficile. Hein. Bon, faut pas se leurrer non plus. Hein. Retrouver un emploi à 56 ans. On a sur la parité, on est à 2/3 hommes, 1/3 femmes. Diplôme, on va du BE. Alors on va dire 90% des gens qui sont qualifiés. Hein, à la louche. Je regarde mes collègues pour qu'elles me disent si je me trompe. Et ça va du BEP, CAP, et ça peut aller au niveau 1, niveau 2, hein, des ingénieurs, je ne vais pas rentrer en détail, mais bon, des bons niveaux. Voilà. Seulement, la maladie peut avoir altéré les compétences acquises. Hein. C'est là où on travaille sur le transfert de compétences, on va travailler sur une réorientation professionnelle, et c'est là où je disais qu'il y avait un long travail d'accompagnement du deuil de l'ancien métier ou l'ancien diplôme.
Je reviens.
Attention. C'est chacun son tour.
Oui, donc je voulais simplement savoir comment vous pouvez présenter donc un ingénieur, enfin qui aimerait postuler un poste à responsabilité si ses compétences justement le font, et présenter à une entreprise un malade psychique qui veut postuler justement un poste à responsabilité. Donc j'aimerais un peu savoir comment, si ça se passe déjà et comment ça se passe. Parce que moi j'ai été suivi donc, par Espoir 86 et j'ai un peu pas été dans les normes parce que j'ai pas voulu dire à mon entreprise que j'avais un handicap et parce que pour moi c'est mal vu. Donc,
et qu'est-ce qu'on vous a dit à ce moment-là?
Ben on m'a dit de le dire, de faire un mi-temps, de le dire et puis de se faire accompagner.
C'est moi qui vous accompagne.
Hein, ouais, bien sûr.
Je suis content de vous revoir d'ailleurs.
Ouais, ben, moi aussi.
Non, je pense que ce que je vous ai dit, c'est que ça pouvait être une aide pour vous. Après, vous avez fait le choix de
ne
pas le dire.
Après,
vous avez fait le choix de ne pas le dire. C'est votre choix.
Oui, bien sûr.
Hein, je crois que là, voilà, on a respecté ça. Hein. On a continué à se voir.
Ouais, bien sûr.
En étant reclus, effectivement. Ouais. On a continué.
Je suis passé par un contrat aidé, donc effectivement, les contrats aidés, madame, ça permet aussi d'avoir un peu d'expérience. Et justement, cette expérience m'a permis de postuler à d'autres postes avant que ce contrat soit fini et de pouvoir avoir un poste, pas responsabilité, mais un poste intéressant avec une expérience. Enfin, pouvoir vivre comme tout le monde, mais j'ai choisi de ne pas dire à mon entreprise. Et. J'aimerais que vous répondiez à ma question de savoir comment vous pouvez insérer et qu'est-ce que vous dites pour un poste à responsabilité, voilà, ou un poste qui demande un peu de... Non, enfin, je ne sais pas, vous me comprenez, non,
bien sûr, je vous comprends très bien. Ce qu'on essaie de voir et de déterminer ensemble, parce que je vous parlais de votre expérience et ça me fait plaisir qu'il y ait des témoignages par rapport à des accompagnements qu'on ait pu faire. Je crois qu'on ne prend aucune décision sans vous en parler. Je crois que ça fait partie aussi de l'accompagnement. Et dans le dire ou pas dire, je crois qu'on vous transmet tout. Hein. Je crois que l'accompagnement vers les responsabilités, on va essayer de voir si ces responsabilités-là ne vont pas nuire à votre état de santé. Hein, parce qu'on sait très bien, je vais prendre un exemple de quelqu'un qui était en situation d'emploi, qui travaillait tellement bien qu'on lui a donné beaucoup de responsabilités.
et trop de responsabilités. Hein, et c'était insupportable pour cette personne-là. Alors ces exemples-là, on peut en avoir à l'appel. Hein. Effectivement, la valeur travail est telle, je rejoins ce que disait monsieur tout à l'heure, c'est que les personnes qu'on accompagne, pour se sentir comme tout le monde, vont se mettre à fond dans l'emploi et donner beaucoup trop, sans s'en rendre compte. Hein. Et à un moment donné, on va arriver à une situation de non-retour. Notre travail, c'est pas de freiner les gens, mais c'est d'être attentif et à faire des bonnes préconisations. Alors, on peut être embêtant des fois. Hein. On dit, là, ça va le faire, là. Hein. Vous vous souvenez ? Voilà. Mais après, chacun est libre de faire. On fait que des préconisations. Hein. La personne reste maître de son projet. Hein. Je crois que ça, c'est important. Après, je ne sais pas. Il y a des personnes, hein, situation de handicap, qui sont sur des postes à responsabilité. D'accord ? Ça dépend du projet de la personne. Ça dépend de... Bon, vous l'avez vu, on travaille pas mal avec les médecins. C'est des choses dont on discute avec les médecins et avec la personne.
En premier ?
Pardon ?
Commencez par ça, parce que si après avoir fait une longue étude, vous venez voir le médecin.
Non, le médecin est associé dès le départ. D'accord ? Via la personne. Le médecin va donner son avis pour une démarche d'insertion professionnelle. Et ça, dès le premier et deuxième rendez-vous. Hein ?
Avant chaque proposition en fait, qu'on va faire à la personne, pardon.
Oui. On va se battre. Hein.
On va se battre. Merci, j'ai le mien. Donc, avant chaque proposition, avant chaque action qu'on met en place avec la personne, que ça soit même un stage, que ça soit, par exemple, un stage, pour bien définir les conditions qui sont les plus adaptées, on va se retourner vers le médecin ou vers l'infirmier qui suit la personne pour vraiment élaborer les conditions qui sont les meilleures et tenir compte des contre-indications. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait systématiquement et on retourne vers le soin vraiment pour expliquer la progression et puis avoir leur avis systématiquement.
On le fait aussi.
On fait aussi, oui.
Ça fonctionne aussi, on a des bonnes collaborations avec certains médecins privés, oui.
Pas tous.
Pas tous, mais certains.
Oui.
Oui. Ou que ouais. Si c'est fait. Oui, oui, ça fait partie. À partir du moment où la personne est accompagnée, le médecin est averti. Hein? Ouais. Alors ça peut se faire après. Ben, soit votre fils vous en parle, soit. Voilà, on passe par la personne, hein, systématiquement. L'autre intérêt de ça, c'est lors des premières immersions d'entreprise, si on se rend compte, on parlait tout à l'heure du rythme de travail, du rythme de vie. Si on se rend compte que la personne est fatiguée l'après-midi, c'est des éléments qu'on va pouvoir rapporter au médecin et qui pourra éventuellement modifier le traitement. Hein? C'est vraiment une collaboration étroite. Et je veux dire que l'accompagnement qui est proposé fonctionne. Alors ça, c'est décrit dans le contrat d'accompagnement que nous on propose, le fait que le médecin soit associé, le médecin et l'infirmier. C'est vraiment indispensable pour que notre travail soit efficace. Hein? Nous, on va faire les 40% du travail, la personne va en faire 80%. Et tout ça en lien avec le médecin. Ça fait plus de 100.
Ouais, on est à
c'est
120.
Pour ça que ça fonctionne.
C'est pour ça, parce qu'on est à 120.
Je suis fatiguée.
tout à l'heure, une personne disait qu'en fait, elle était choquée parce que c'était des contrats de 2 ans que vous proposiez. Mais maintenant, dans le monde du travail actuel, les jeunes qui arrivent sur le marché du travail se retrouvent avec des contrats à durée déterminée, parce qu'en fait, les employeurs se méfient et on dit... Oui, mais ça fait rien, mais quand même, c'est bien des contrats à durée déterminée. Donc, en fait... Non, mais même pour des jeunes qui sont diplômés. J'ai l'expérience personnelle, donc je sais... C'est l'employeur qui voit son intérêt d'avoir quelqu'un qui va tester pendant peut-être 1 ou 2 ans.
Les gens qui ont des problèmes de handicap, de temps en temps, les gens qui sont diplômés, même non handicapés, on dit que on leur propose pas certains postes parce
Oui, ben justement, mais ça dure justement sur une durée déterminée. Et c'est bien, c'est pas un handicap d'avoir des diplômes, mais les employeurs se méfient aussi. Donc, quand on est handicapé...
Oui, je crois que le sujet de ce soir, c'est l'insertion professionnelle des handicapés psychiques. Alors, il faut regarder un petit peu en arrière, et cette population qui était complètement oubliée, sauf par les soignants, complètement oubliée par le secteur social, par le médico-social même, et par l'insertion à plus forte raison, eh bien, on s'aperçoit en fin de compte que vous êtes peut-être en train d'inventer un nouveau métier, mais on réussit à insérer ces gens-là en milieu professionnel. Souvent, c'est au prix d'un changement d'orientation par rapport à leur expérience précédente. Mais ça s'explique. Je crois qu'on peut annoncer un petit peu les pourcentages. Quand on réussit à insérer un tiers des personnes qui sont accueillies dans l'année, c'est un petit peu exceptionnel. Surtout avec cette population et ses difficultés. Alors on est bien là pour les handicapés psychiques et leur insertion professionnelle en milieu ordinaire.
Il n'y a pas de question.
Non, il n'y a pas de question.
Une affirmation.
C'est très... Oui.
Quand vous disiez tout à l'heure que les CAT étaient en souffrance, ça veut dire quoi?
Alors c'est pas les CAT, c'est les entreprises adaptées.
Oui, je fais la confusion.
Parce qu'elles prennent de plein fouet la crise économique. Hein.
Donnez-nous les définitions peut-être et les créneaux respectifs.
Alors, les entreprises adaptées font partie maintenant du milieu ordinaire de travail. Elles étaient anciennement appelées ateliers protégés. Elles font l'objet d'une orientation MDPH. D'accord. Et elles sont chargées, par exemple, il y en a deux principales sur le département. Bon, une qui a deux zones de production.
Mais il y en a plus que ça.
Il y en a plus que ça,
ouais.
Mais non. Mais c'est la même. Enfin bon, on va
bon, c'est pas grave.
Donc il y a un site sur Châtellerault, qui a aussi un site sur le sud de Vienne. D'accord. Après, c'est les chantiers d'insertion dont tu parles.
Et il y a Smarve.
Ah oui, l'atelier. L'atelier. Alors la PEP de Smarve, qui gère un atelier où ils font. Alors l'activité principale a changé.
Câblage.
Câblage, montage, câblage. Il y a donc sur Châtellerault où ils font du montage. Pas mal, mais ils se sont diversifiés au niveau de la production, hein, forcément obligés de s'adapter au marché de travail, au contrat. Et Sud-Vienne, alors par contre, je ne connais pas.
Je ne me souviens plus.
Voilà, en gros, hein, on ne parlait pas du tout des CAT. Hein. Voilà. Et donc, elles accueillent des personnes reconnues travailleurs handicapés. Alors, je ne veux pas dire de bêtises dans les créneaux, mais c'est au niveau du taux d'incapacité à l'emploi qui peuvent être orientés vers justement ces ateliers protégés, hein, avec des postes adaptés. Bon, majoritairement, ce sont quand même des personnes en situation de handicap physique hein, qui sont accueillies.
Ouais. Oui, moi je voudrais savoir comment sont... arrivent les malades psychiques donc dans votre service. Parce que, bon, un malade psychique, en général, hein, le plus souvent, la maladie se déclare en général entre 25 et 30 ans, et souvent à la suite de la première expérience professionnelle. Bon. Donc, à ce moment-là, ils sont hospitalisés parce que la crise est violente. Et je voudrais savoir si c'est l'hôpital qui vous les envoie, à quel moment on peut déterminer que ces malades qui sont plus ou moins stabilisés, qui ne sont plus en crise, dont le traitement est adapté, peut travailler en milieu ordinaire, et qui vous les envoie? Est-ce que ce sont les parents qui, après une galère terrible, parce qu'ils ont la chance d'avoir rencontré une association telle que l'UNAFAM, connaissent ce service, ou bien est-ce que ce sont les médecins, ou est-ce que les trois quarts des familles et des malades ne savent même pas que vous existiez? Parce que là, vous parliez de communication tout à l'heure, il y a un problème de communication. je crois que si tous les gens qui, à 25 ans, ont des problèmes de santé psychique, qui mettent 2-3 ans avant de se stabiliser, et à 28 ans, envisagent de revenir dans le milieu du travail, venez vous voir, je crois que vous seriez débordés de travail. Voilà, je voudrais savoir comment les gens peuvent parvenir jusqu'à vous.
Bon. Alors, j'aurais dû commencer par ça, peut-être, sur les conditions d'admission par rapport au service. Alors, il y a 5 ans, les personnes étaient orientées par l'UNAFAM, grâce au travail de M. Renaud, entre autres, par l'hôpital. Majoritairement, les personnes sont orientées par le Pôle emploi. D'accord ? Alors, il y a des conditions d'admission par rapport à l'entrée au service. Je dirais le plus important, c'est d'avoir... plus important. C'est d'avoir la volonté de travailler, cette motivation-là, des plus importantes. Après, il y a bénéficier d'une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé ou bénéficier de l'allocation d'adulte handicapé, être inscrit en tant que demandeur d'emploi et bénéficier d'un suivi thérapeutique. Voilà les critères un peu d'admission. On accompagne 80 nouvelles personnes par an. D'accord ? Et au total, sur l'année, on accompagne à peu près 120 et 130 personnes. Il y a actuellement, alors moi je fais quelques suivis en entreprise, mais mes collègues à 3 se partagent donc l'accompagnement des 130 personnes. Voilà. Après, je crois que l'un des critères, c'est que la personne soit observante par rapport à son traitement. D'accord ? Parce que c'est important. On ne veut pas la mettre en danger ni mettre l'entreprise en danger. Alors ça, quand on demande l'avis du médecin, quand on reçoit une personne, on parlait de l'avis du médecin, on va demander au médecin si elle trouve que l'idée de rentrer dans une démarche d'insertion professionnelle est cohérente. Donc le médecin va nous dire cela. Je crois que c'est important. C'est important que la personne entende que le médecin est OK avec cette démarche-là. Elle est prête. À partir de là, on va pouvoir dérouler tout un tas d'accompagnements. Voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais c'est un peu...
Oui, vous répondez à ma question, parce qu'effectivement, les critères d'admission, je les connaissais mal, mais ce qui m'interroge, c'est bien l'information. L'information, si vous voulez, elle arrive très souvent, très tardivement. Bon, parce que moi, je sais, mon fils n'a pas bénéficié de Espoir 86 parce que, en désespoir de cause, on a accepté une orientation en CAT. Je ne suis pas sûre, si vous voulez, que l'orientation en CAT était à l'époque, maintenant je pense que oui, mais à l'époque était peut-être la meilleure pour lui. Voilà. Alors, je ne me rappelle plus quand il a été orienté, peut-être vous n'existiez pas. Mais de toute façon, c'est sûrement pas le corps médical qui le suivait, qui a pensé à un moment donné, pourtant, qu'il pouvait reprendre une activité professionnelle, alors que mon fils désirait travailler. Bon, ça aurait peut-être été un échec en passant par vous, ou bien, comme ça sera un échec quand il sera enfin admis en CAT. Pour l'instant, s'il n'a pas le choix, il est admis en CAT et donc il ne peut pas bénéficier des services de réinsertion. Et compte tenu de la conjoncture économique, ce qu'il trouvait il y a quelques années, 3 ans, c'est-à-dire des petites missions en intérim, maintenant il n'en trouve plus. Voilà. Bon. Alors, hier, je disais qu'il ne faisait pas encore le deuil d'une non-activité salariée. J'espère que, accompagné par les soignants et peut-être par la famille, il y arrivera.
Alors on est récent. On a ouvert en novembre 2004. Donc c'est relativement récent quand même. Après,
au niveau de la communication, nous, on est lié à un financement qu'un bon nombre de services. On accompagne 80 nouvelles personnes par an. Augmenter la charge de mes collègues, on ne sera pas financé pour. Et ça aussi. Hein. Donc la communication, je pense qu'elle est faite. Je pense que les médecins de l'hôpital nous connaissent. On travaille mais très régulièrement avec eux, puisqu'ils nous signent des protocoles régulièrement. Chaque personne accompagnée, il y a un protocole qui est signé avec l'hôpital, hein, puisque je vous l'ai dit au départ, on a une convention avec l'hôpital, où est nommé le médecin référent et l'infirmier référent qui peut intervenir à tout moment. Ça m'est arrivé d'aller en entreprise avec un infirmier pour voir si les machines n'étaient pas dangereuses au vu du traitement que prenait la personne. Enfin, c'est pour montrer à quel point la collaboration peut être étroite. Pardon ? Elle a 5 ans. Voilà.
Alors,
sachant que quand on a ouvert, on était à peine 10 services dans tout le territoire français. Hein. Sur le centre-ouest, on était, enfin, il n'y a pas grand monde, à part sur l'Orient. Enfin, c'est au nord, enfin oui. Hein.
Est-ce qu'honnêtement, vous pouvez dire qu'en France, la prise en compte psychiatrique des personnes ayant des difficultés est assez récente?
Moi, j'ai commencé à travailler il y a 25 ans et je travaille avec le centre d'Esquirol à Limoges. Je peux vous dire que ça a bien évolué hein, sur la prise en compte et l'ouverture. Enfin, je m'occupe du service d'insertion professionnelle. Mais on a aussi ouvert, enfin grâce là encore au travail partenarial avec l'UNAFAM, 4 maisons relais, on a ouvert un SAVS, on a ouvert les dispositifs gouvernantes. Enfin, je peux vous dire, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une ouverture, on accompagne en tout, sur tous les services, 250 personnes. Hein, je crois que c'est quand même pas mal. Donc il y a des choses qui s'ouvrent. Voilà, et on essaie de. Alors, on peut se dire, voilà, c'est des contrats aidés, c'est ceci, c'est cela. On essaie d'individualiser au maximum. Hein, ça nous arrive, effectivement, de dire à une personne, allez vers le milieu ordinaire, vous allez vous mettre en danger. Pour nous, on préconise un milieu protégé, un ESAT. Après, la personne, on fait ce qu'elle veut. Nous, on fait la préconisation. D'accord ? Mais c'est en la mettant en situation qu'on va réellement se rendre compte de ses capacités. On ne sait pas quand la personne nous arrive. Hein. C'est pour ça que je dis qu'on est souvent sur l'expérimentation, nous aussi. Comme le médecin, je ne sais pas non plus. Hein. Je ne sais pas si je vais. Enfin, Monsieur Renaud voulait.
Jean Renaud voulait répondre. Je vous repasse le micro après.
Non, il ne faut pas désespérer. Hein. Il faut entretenir la révolte, au contraire. Hein. Il faut être révolté sur la situation dans laquelle ces personnes se trouvent. Enfin, de moins en moins, on peut quand même reconnaître qu'il y a eu des efforts maintenant de fait. Et il n'y a pas que ça, il y a d'autres projets qui sont en route. Donc, on est plein d'espoir, au contraire.
Et il y a d'autres services qui fonctionnent aussi.
Et il y a d'autres services qui fonctionnent.
Oui, non, puis oui, c'est 250. Enfin, il y a 80 nouvelles personnes par an. Il n'empêche que tous les ans. Allez-y.
Vous en rajoutez 80.
Voilà, tous les ans, on en rajoute 80.
Tout à fait.
Je crois que ça n'empêche pas.
Et vous suivez les gens pendant plusieurs années.
Oui.
Il y en a que vous suivez depuis le début.
Tant qu'ils souhaitent être suivis, on peut accompagner.
C'est peut-être le moment de dire qu'on ne peut rien faire seul. Ce n'est pas en restant dans son coin qu'on obtiendra quelque chose. Moi, je fais un appel aux adhésions à l'UNAFAM. C'est quelle que soit la pathologie de vos proches malades, on se décarcasse pour que ça avance. Ça commence à avancer, mais plus on serait nombreux, parce qu'il y a du travail pour tout le monde, on est prêt à embaucher, là aussi, hein, à durée indéterminée, si vous voulez. Il y a plein de choses à faire.
Voilà, je crois pour répondre à madame aussi, il y a plein de choses qui se passent. Hein. Faut pas oublier que les premières lois handicap, c'est 75. La reconnaissance du handicap psychique, c'est février 2005. C'est tout récent. Hein. On a la chance d'exister. Et croyez-moi, j'ai la chance aussi d'être entouré d'une équipe qui est motivée et qu'on essaie d'être force de proposition et de suivre les projets et d'essayer de mettre en place un certain nombre de choses pour répondre aux besoins. Hein, ce qu'on essaie de faire, alors effectivement, avant tout, on est salarié de l'UDAF, hein, qui a pris le choix de collaborer avec, enfin, qui a fait le choix, qui a souhaité soutenir l'UNAFAM aussi dans cette démarche-là. On essaie de faire une proposition d'offre de service qui puisse répondre à différents niveaux en termes de besoins d'accompagnement. Voilà. Mais effectivement, on va pas... Et puis, dans les 4000 dont parlait M. Pétard, heureusement qu'il y a des gens qui arrivent à se débrouiller tout seuls. Il y en a. Hein, je crois que ça aussi, c'est important.
Oui, je voulais parler un petit peu de mon expérience qui date un petit peu. Je n'ai pas du tout l'optique de chez vous, de vous, d'une part parce que j'essaye toujours de me débrouiller seul. C'est bizarre, je me débrouille autant que possible seul, je bricole seul, j'apprends dans les bouquins, si je n'apprends pas dans les bouquins, je prends des cours, je me débrouille. Et disons que je ne voudrais pas, si je reprenais du travail, et des fois j'y pense, même à l'âge presque de 70 ans, reprendre du travail de salarié, j'y repense, vous pensez bien que je ne vais pas faire appel à vos services, pour deux raisons. D'abord, je ne veux pas être sous le joug, de services de plus ou moins étatisés comme le vôtre. Deuxièmement, j'ai un certain honneur. La preuve, c'est que je cache les médicaments que je prends, je sais mon étiquette, je ne la dis pas, je ne la chante pas, etc. J'ai un certain honneur. Et j'ai un certain honneur de ne pas dépendre de gens qui sont là pour soi-disant me diriger, me dire ce qu'il faut que je fasse ou ce qu'il faut que je ne fasse pas, etc. En conséquence, ce système-là, je l'ai appliqué il y a déjà un bon bout de temps. J'étais dans la dernière entreprise où j'étais salarié. J'étais malheureusement un emploi pistonné d'agent technique. J'étais très cyclotémique. Ça l'affiche mal, parce que là, du coup, je ne vois pas très bien comment vous allez vous débrouiller. Mais ça l'affiche très mal. Qu'est-ce que je faisais? Par exemple, quand il y a des moments creux dans la journée, j'essayais d'être en présence à côté de mon ouvrière pour pouvoir être stimulé pour le travail. C'est des trucs que je trouvais tout seul. Je n'allais pas vous chercher pour ça. Et ça marchait en partie. Où je travaillais, par exemple, le dimanche, car j'avais les clés de l'entreprise, je rentrais dans l'entreprise, je travaillais le dimanche pour essayer de compenser, pour me rattraper. Bon, le directeur s'est aperçu, qui était socialiste, de dire, s'est aperçu quand même que je travaillais pas trop, pas suffisamment. Et il m'a mis à la porte, il a voulu me mettre à la porte. Je lui ai dit, dans ces cas-là, écoutez, moi, je vous propose un marché, je travaille, vous me payez, je ne travaille pas, vous ne me payez pas. Autrement dit, en quelque sorte, même si je suis agent technique, même si j'ai un diplôme équivalent à ingénieur, vous me payez à la tâche.
Il me répondit, toi, qu'ayant affiché chez lui les droits de l'homme, pas dans lui, chez lui, mais à l'usine, les droits de l'homme et du citoyen, c'est interdit, les syndicats s'y opposeraient. Et j'ai été mis à la porte. Il n'empêche que...
Monsieur, vous prenez la place des gens qui viennent demander de l'aide, s'il vous plaît, de grâce.
Ah, mais je ne vous empêche pas. C'est votre, vous faites ce que vous voulez. Moi, je dis ce que je fais. Bon, je n'ai pas fini. Après, quand j'ai vu ça, j'étais un petit peu âgé. Je me suis mis artigeante, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, à mon compte. À mon compte, c'est-à-dire injecteur de plastique. Croyez-moi, je n'ai pas du tout une formation à la base d'injection de plastique. Et je me suis mis... Malheureusement, c'était un travail sur une machine très primitive. Mais enfin bref, sans conduire, j'ai fait ça pendant un an et demi et j'ai arrêté. Parce que, disons, la maladie l'emportait. Mais...
Je crois que c'est bien, enfin, vous nous montrez que vous avez été capable de faire des choses. Mais le principe, nous, de l'accompagnement qui est proposé, c'est sur de la libre adhésion. Comment? On ne va pas forcer les gens à être accompagnés. D'accord ? Les gens qui viennent nous voir, c'est qu'ils ont envie d'être accompagnés. Voilà, mais je crois qu'il y a des gens qui peuvent, comme vous le montrez, se débrouiller tout seuls.
Il ne faut pas les oublier, ça.
Ah, mais on n'a pas dit qu'on les oubliait, au contraire.
Oui, tout. Enfin, moi, je trouve qu'il y a des tas de choses intéressantes. Si j'essaye de prendre le cas particulier de mon fils, je dirais qu'après avoir eu une confrontation assez brutale avec la maladie, il a de manière, lui aussi, totalement autonome, c'est-à-dire qu'il est parti à 70 km de chez nous, et progressivement, il est passé par tout un tas d'étapes. Mais par lui-même, je veux dire qu'il a fait des CD, enfin, il a entamé ce type de démarche que vous cherchez à encadrer un peu et à initier. Alors, je pense quand même que dans un grand nombre de cas, la coupure avec cette idée de projet est enfin, quelque chose qui devient un lourd handicap, parce que plus on s'éloigne et plus la durée pendant laquelle on s'éloigne de ce type de démarche, plus elle est difficile à réinitier. Et je me demandais si finalement, même si l'objectif n'était pas celui d'une embauche immédiate, tout ce travail psychologique au travers de la reconstitution, enfin du deuil effectivement, parce que mon fils était quelqu'un d'extrêmement brillant sur le plan intellectuel. Et effectivement, il a dû... Et moi, le premier, je lui ai dit, écoute, j'ai commencé par lui expliquer que ce qui pouvait... Enfin, ce qui l'éloignait de ses projets, ce n'était pas forcément la catastrophe, qu'il pouvait rentrer par les petites portes. Enfin, j'ai essayé de le motiver à faire le deuil et à continuer de garder l'espoir à se redéfinir un projet. Et ça, je me dis que finalement, ce type de démarche, même si l'objectif immédiat, ce n'est pas la réinsertion professionnelle, ne serait pas un élément, mais presque majeur, du post-cure, quoi, je veux dire. Quel que soit le niveau par lequel on l'aborde, quoi, je veux dire, et le plus tôt possible, quoi. Pour qu'au moins, dans l'esprit des gens, et dans la mesure et adaptée à leur situation, effectivement, je veux dire... ce travail psychologique de préparation à essayer de retrouver un lien avec le milieu ordinaire dans les cas qui peuvent être concernés par cette démarche. Je ne dis pas que ça concernerait tous les gens, mais ce ne serait pas important à développer dans un cadre un peu plus élargi que le vôtre, quoi. Voilà ce que je voulais dire. J'ai essayé de formuler. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre.
Si. Et on s'en rend compte dans l'accompagnement qu'on propose. On se dit que... Bon, ça fait l'objet de réflexions qu'on peut avoir aussi, hein, sur la remobilisation des, enfin, ce qu'on peut appeler les habiletés sociales, les habiletés professionnelles. Il faudrait qu'elles soient remobilisées rapidement, si on ne veut pas qu'elles soient altérées.
Ça, je m'excuse de vous couper, mais je veux dire, c'est un sujet qu'on n'aborde jamais si on ne le met pas sur le tapis. Ça. Je veux dire, avec les médecins, ce n'est pas la préoccupation du médecin. Le médecin, c'est d'éteindre l'incendie, pour l'essentiel, dans un premier temps. Et on connaît toutes les difficultés qu'on a après dans la continuité des soins et tout ça, et puis tous ces problèmes de post-cure. Donc, je veux dire, c'est pas forcément le malade qui va être demandeur. La famille, il lui faut le temps de récupérer aussi. Donc il se passe toujours beaucoup, beaucoup de temps.
Mais il se passe beaucoup.
Et puis, quand il s'est passé un certain nombre d'années, on s'aperçoit que le fossé qui s'est creusé est tel que...
Mais vous avez raison.
Qu'on n'arrive pas à raccrocher les wagons.
C'est pour ça que nous, on défend l'idée de l'accompagnement qu'on peut proposer demanderait du temps. Or, actuellement, on nous finance pour 6 mois, renouvelable une fois. D'accord ? Dans la démarche d'accompagnement. Il y a des fois, je peux vous dire, on est hors cadre hein, dans ce qui peut être proposé. Mais ce qu'on essaie, c'est de ressolliciter la personne assez rapidement. Il faut savoir qu'on les rencontre tous les 15 jours. D'accord ? De manière à les inscrire dans quelque chose de dynamique. Mais même, il manque une marche avant. Sauf qu'on est obligé de fonctionner comme on peut fonctionner là. Effectivement, il y aurait... Vous pensiez au centre de Postcure, des choses comme ça. Effectivement, Billier fait des choses formidables hein, par rapport à l'accompagnement qui est proposé, à la remobilisation.
Cette démarche soit inscrite dans la logique du Postcure, mais le plus tôt possible quand c'est possible.
Pour certains.
Avant que le malade ou que la famille soit demandeuse, ça peut être une proposition.
Alors, je ne vais pas parler à la place des médecins.
Non, mais je veux dire, parce que le temps que tout le monde réagisse, hein, on est submergé par. L'impatience, on devient très patient. Et puis je veux dire,
je vois ce que vous voulez dire, mais c'est aussi la première chose qu'on dit quand on reçoit la personne, parce que la majorité des personnes qu'on accueille sont quand même dans l'immédiateté. Hein, et ce qu'on commence à leur dire, des fois ça agace, mais on va prendre le temps. Hein, c'est reposer mais les choses.
Il faut peut-être.
Parce que, effectivement, on pourrait dire aux gens voilà, vous voilà une adresse de boîte d'intérim, allez-y. D'accord.
Il faut peut-être dissocier les deux notions, c'est-à-dire la notion d'insertion professionnelle et puis la notion de SAVS ou équivalent. C'est-à-dire que si on reprend l'image de Roger éteindre l'incendie, après la case logique derrière. Ce serait centre de post-cure. Et la case logique derrière, ce serait le SAVS d'urgence, c'est-à-dire sans attendre 6 mois d'instruction de dossier auprès de la MDPH, que tout de suite, là, il y ait la prise en charge d'urgence. Quand je suis allé présenter le trouble psychique au personnel de la MDPH à l'automne 2008, et que Madame Champion, la vice-présidente, m'a demandé finalement, vous auriez besoin de quoi ? Je lui ai dit d'un SAVS d'urgence.
Oui, j'avais une autre chose à proposer par rapport à l'alternative possible au monde du travail. Je vais prêcher pour ma paroisse, pour ceux qui me connaissent, mais il y a le groupe d'entraide mutuelle aussi qui existe, hein, et ça c'est très important. C'est comme un lieu d'activité, un lieu d'accueil pour personnes qui souffrent d'handicap psychique et qui ne sont plus ou pas encore dans le milieu du travail, et où ils peuvent non pas simplement passer des journées à faire des activités occupationnelles et de l'amusement, mais vraiment faire des projets. Hein. Donc je travaille pour l'association Fil d'Ariane qui parraine un groupe d'entraide mutuelle sur Poitiers. Et à travers tout ce qu'on fait, tout ce qu'on met en place, il y a toujours la notion de projet chez la personne. On veut rendre la personne acteur, on ne veut pas simplement qu'elle vienne consommer de l'activité. Et c'est un maillon indispensable, ça, dans le cursus des personnes handicapées psychiques. Par exemple, on a monté un jardin avec des adhérents, parce qu'on a vu qu'ils avaient des compétences en jardin. Moi, je n'ai aucune compétence en jardin, c'est moi qui ai monté le projet jardin quand même. Et c'est pas moi qui allais leur apprendre, c'est eux qui m'ont appris à faire un jardin. Mais si j'avais pas été là un peu pour le mettre en place, ça, ces gens-là n'auraient pas exercé cette compétence-là, qui peut leur permettre à un moment de reprendre confiance en eux. Sur Poitiers aussi, nos adhérents ont monté leur association cette année, donc ça permet à certains d'exercer des compétences de gestion, de comptabilité. C'est important ça aussi.
Mais oui. Hein,
voilà. Je le dis parce que c'est une alternative aussi intéressante.
Ben oui, non, c'est aussi intéressant. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on va se servir des compétences qui vont pouvoir être acquises partout. Ce qu'on appelle le transfert de compétences, c'est quelqu'un qui ne peut plus exercer le métier de comptable, mais s'il est bon, pour l'exemple du jardinage, je vais le prendre parce que c'est très parlant, quelqu'un qui aime bien faire son jardin, on va servir des compétences qu'il a acquises dans le cadre de loisirs pour le retransférer sur le professionnel, hein, via une formation, puisqu'on a des gens qui font des formations aussi. Voilà. Mais ça, c'est important, mais le rôle des GEM. Mais comme le fait de s'inscrire dans n'importe quelle activité, le fait, parce qu'on a des personnes qui en sont là, de se rendre chaque semaine à une activité de loisir, une activité piscine. Alors moi, mes collègues riez de moi quand je disais aux gens, allez à la piscine, ça détend, enfin, ça vous relaxe à la fin de la journée de travail. Bon, j'ai une collègue qui n'est pas là ce soir, mais qui n'arrêtait pas de se moquer de moi. Et je crois que c'est important, et d'arriver à être fidèle à une activité piscine le soir, et le rythme, hein, parce que c'était une bonne fatigue aussi, ça évite les idées parasites, ça peut éviter tout ça. Donc, voilà. Et je crois que c'est important, effectivement, le travail qui est fait au GEM.
Oui, vous parliez tout à l'heure de remobiliser, enfin, mon voisin a parlé tout à l'heure de remobiliser les personnes handicapées tout de suite. Mais quand ils sont dans le déni de la maladie et qu'il faut plusieurs hospitalisations, parce que si je prends mon cas, enfin, le cas de mon fils, on a essayé tout en même temps au départ les soins et la formation. Et puis à un moment, je me suis dit, ben non, ça ne peut pas marcher parce qu'il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas, quoi. Soit ils ne suivaient pas la formation, soit ils ne suivaient pas le traitement, soit ils partaient, enfin... Et après, je me suis dit, ben, faut mieux d'abord le soigner, y aller petit à petit, le soigner d'abord, et ensuite, on verra s'il est capable de travailler, et voilà. Maintenant, il y arrive au bout de plusieurs années, mais faire tout en même temps, je trouve que ça ne va pas, quoi.
Mais je crois que c'est pour ça que c'est important qu'on a ce travail avec le médecin. Il faut absolument, pour qu'on puisse travailler, nous, sur la partie... tout ce qui découle de la maladie, il faut que la personne soit au fait par rapport à sa maladie, qu'elle soit dans l'acceptation de ça, comme d'aller dans l'acceptation du traitement. Hein. Parce que des fois, enfin, je crois que c'est important de dire que la personne, quand elle va mieux hein, au travail, elle se dit qu'elle n'a plus besoin de son traitement. Donc c'est vrai qu'on fait un gros travail, on n'est pas soignant, hein, mais on veille au grain avec l'infirmier en disant, là, gardez le traitement, vous êtes bien au travail parce que vous avez le traitement. Hein. C'est jamais acquis, hein. C'est là où je dis que c'est fragile, et qu'il faut un temps pour chaque chose. La priorité doit être à un moment donné aux soins. Hein. Elle va être après, une fois que le soin est stabilisé, ça peut être sur l'insertion sociale, hein, sur comment bah, se re-rencontrer des gens, puisque les personnes de la campagne, c'est aussi ça. Hein. C'est un grand isolement social. Et après, aller vers l'emploi. Je crois qu'il y a une graduation. Alors, je ne sais pas si c'est forcément la même qu'une femme, je ne me souviens plus du schéma. Mais c'est... Ouais, mais je crois que c'est ça.
C'est quoi les
six ? Il ne faut pas qu'il en manque.
Oui. Mais je crois qu'il peut y... Alors, l'avantage de notre service, c'est qu'on est d'une souplesse à toute épreuve, on va dire. C'est-à-dire qu'on peut à un moment donné venir, ne pas être prêt, repartir, revenir un an après, deux ans, être plus disponible. Parce que c'est une question de disponibilité aussi. Hein, quand on est parasité par un problème de logement, par un problème de santé, ça ne va pas fonctionner. On a vu des gens faire des allers-retours comme ça, hein, et pour aboutir à un moment donné. Je crois que le fait qu'on soit en porte ouverte, parce qu'on l'est, hein, même s'il y a, bon, il y a un cadre hein, qui est offert par notre prestation, voilà, on laisse la porte ouverte à chacun. Et chacun ne peut pas être prêt à un moment donné. On essaie de ne pas être dans la culpabilité par rapport à la personne. Je veux dire, voilà, bon, peut-être que vous n'êtes pas prête, ou qu'elle se rende compte par elle-même. Parce que souvent, le plus important, c'est que la personne se rende compte par elle-même. Parce qu'on aura beau le dire, mais non, ça ne va pas, vous n'êtes pas prêt. Il faut qu'elle aille faire son expérience elle-même.
Et pour revenir sur la mise en place d'activités bénévoles, associatives, je crois que ce qui est important aussi dans le développement de ce type d'activités, de loisirs ou autres, c'est aussi de permettre de lâcher un peu la pression sur l'emploi. C'est-à-dire qu'il y a tellement... Les personnes arrivent chez nous avec une telle envie, une telle... elle se jette à corps perdu dans cette recherche d'emploi. Et c'est vrai que si nous, on a tendance à freiner aussi pour mettre des étapes et dire bon, on va commencer d'abord par une activité associative ou bah, tiens, qu'est-ce que vous faites quand il y a des personnes, on leur demande, enfin on demande à tout le monde au premier rendez-vous comment elles occupent leur journée, voir un petit peu comment dans le quotidien, comment ça se passe, s'il y a des loisirs mis en place. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui nous disent bah, je recherche un emploi. Et donc, bon, comment vous faites, etc. Mais il y a des personnes, toute la journée, elles sont concentrées là-dessus et il n'y a que ça qui compte. Donc, on essaie aussi de mettre en place ces activités de loisirs en disant, ben voilà, ça va vous permettre de décompresser un petit peu et de lâcher un peu du lest aussi sur l'emploi. Voilà, et d'aborder les choses avec un petit peu plus de sérénité aussi, un petit peu moins d'enjeux, parce que ça aussi, c'est un élément qui est important pour trouver un équilibre.
Alors, ce que vous disiez tout à l'heure, je repense à la dame tout à l'heure sur l'intervention, il y a des choses qui peuvent se mettre en place, mais petit à petit. Je vais prendre un exemple tout bête. Donc on a 5 ans d'existence. Auparavant, on accueillait des personnes. Elles étaient aussi, comme elles étaient demandeurs d'emploi, aussi accueillies à la NPE. Vous vous rendez compte, ça faisait le doublon de rendez-vous. Il nous a fallu 5 ans, mais on a réussi, à ce que la NPE nous confie les accompagnements. C'est-à-dire que quand on accompagne quelqu'un, elle ne va plus à la NPE. Elle pointe, certes, mais il n'y a plus d'entretien. Et c'est nous qui faisons les bilans à NPE. Donc on devient finalement le référent pour la personne, et ce qui est beaucoup plus simple, ce qui évite les éparpillements hein, au niveau des interlocuteurs. On tient, nous, compte dans les décharges avec la NPE, informé de toutes les progressions qu'on peut avoir, puisqu'après, on va utiliser les outils. Mais je crois que c'est vraiment important que la personne puisse identifier quelqu'un comme personne relais, hein, comme référente par rapport à son insertion professionnelle. Et ça, c'est un des points clés, quand même. Waouh, on nous a...
Les entreprises avec lesquelles vous êtes en partenariat, est-ce qu'elles couvrent des secteurs d'activité larges ou est-ce qu'il y a des secteurs d'activité qui ressortent? Et d'autre part, quelle est la part du secteur public parmi ces employeurs? Voilà, pour avoir un tableau d'ensemble.
Alors, on va travailler avec tous les secteurs. Alors, il y a certains secteurs avec lesquels on ne va pas aller, des secteurs qui vont être anxiogènes, et puis où un stress va être... Je ne sais pas si on peut les citer. Pour certaines personnes, ce qui est de l'ordre de la restauration, par exemple, hein, ou du commerce, qui sont des lieux de stress, hein, on va forcément éviter par rapport au public qu'on accompagne. Après, on essaie de travailler avec tous les secteurs d'activité, que ce soit des activités de production, des activités dans le tertiaire... que ce soit alors on a envie de travailler avec tous les secteurs hein. On est très opportuniste dans notre démarche, c'est-à-dire qu'on va on fait un travail de prospection qui répond pas tout de suite, mais 2 ans après on a vu des entreprises nous contacter pour des partenariats. Là, des collectivités commencent à nous contacter, alors ça va petit à petit hein. Il faut que l'idée fasse son chemin. Mais on se construit un réseau. Alors, sachant qu'on intervient sur tout le département de la Vienne, que c'est sectorisé. Hein. On a une collègue qui fait Châtellerault, une partie de la Cap, une autre, donc Isabelle qui est dans la salle, qui fait Loudun, Jaune-et-Clan, et puis Magali qui fait le secteur Sud-Vienne. Donc, on va aller en fonction des besoins qu'on peut avoir au niveau des personnes. Hein. Il n'y a pas. Je disais tout à l'heure, quand on prend contact avec l'entreprise, on préfère une entreprise qui nous dise non tout de suite plutôt qu'une qui va être hésitante. Hein. Parce qu'on sait que ça va être très compliqué. Mais après, il y a des entreprises avec lesquelles c'est extrêmement facile. Et on souhaiterait que ça soit de plus en plus facile à travailler. Et c'est là où c'est important, je reviens sur ce que je disais au tout début, c'est que notre travail, il s'agit bien de présenter des compétences. Si on présente une personne en entreprise, c'est que la personne a validé son projet, qu'elle l'a expérimenté via des immersions en entreprise, et qu'elle se sent bien dans ce projet-là. Je crois que c'est vraiment... Quand on arrive à présenter quelqu'un en entreprise, c'est qu'on en est à ce stade-là. Hein, voilà, c'est que tout le travail en amont a été fait. Bon, voilà. Après, il n'y a pas... On en est à quoi sur le collectivité? On a des gens qui sont titularisés en collectivité, hein, des petites collectivités ou des grosses collectivités. On a des grosses entreprises. Alors, majoritairement, à l'expérience qu'on a, c'est beaucoup avec des petites entreprises. Hein, d'artisanat, ou qui sont pas plus mal, hein, puisqu'on est, on est beaucoup sur des constructions un peu familiales, hein, où la personne s'y retrouve, parce que la personne peut être noyée dans une grosse structure. Hein. Mais on commence à travailler avec des grosses entreprises, où il y a un accueil qui est, alors peut-être motivé aussi par les aides qui peuvent être allouées, mais il y a une mobilisation quand même. Alors savoir qu'on est présent quand même sur chaque forum emploi du Conseil général. Et donc ça, c'est important. Là, c'est un lieu pour nous pour rencontrer des anciennes personnes accompagnées par le service, mais aussi des nouvelles entreprises avec lesquelles on peut... Quand je dis qu'on est très opportuniste, nous, on saisit ça. On a notre plaquette et on la distribue à tous les stands où il y a des entreprises. Et les entreprises peuvent nous rappeler 1 an ou 2 ans après, mais ils nous rappellent, pour certains. Et après, bon, on travaille avec l'aide à la personne. On travaille, c'est divers et varié. C'est vraiment en fonction du projet de la personne. Et si un projet n'est pas bon, ben on va... réexpérimenter autre chose, on va, voilà. Je ne sais pas si je réponds. Si. La deuxième question, c'était
la part publique.
C'était deux questions en une, en fait. C'était par rapport au secteur public, mais vous y avez répondu.
Alors, il faudrait... Oui, je veux juste compléter. Il faudrait que simplement que les effets d'annonce soient suivis d'effets, simplement. Mmh. Et je ne rentrerai pas dans les détails.
Alors, je voudrais quand même comprendre comment vous avez pu faire pour faire titulariser des gens en entreprise publique, en disant qu'il est malade. Moi, j'ai travaillé toute ma vie.
J'ai pas dit qu'il.
Alors. Oui, j'ai travaillé toute ma vie en territoire. Ils en ont déjà trop. Dans les gens qu'ils ont embauchés, qui tombent malades après, ils ne peuvent déjà pas en prendre d'autres. Je me demande comment, en entreprise publique, vous avez pu les insérer et qu'ils soient titularisés en indiquant qu'ils sont malades. Ben c'est bien. Ça, c'est un effort que vous avez fait. Alors.
C'est pas nous qui avons fait le plus gros effort. Hein. C'est la personne elle-même en travaillant, tout simplement.
Ah oui, mais ça fait rien.
Alors, ce qui s'est passé.
On sait que la rechute peut venir.
Alors là, je rebondis.
Vous savez, malheureusement, moi j'ai mon fils, il était ingénieur. Bon, bah, il est rentré à 25 ans. Bah, il a 48 ans, il est toujours très malade. Mmh. Et lui aussi, il a essayé tout. Hein. On n'a pas dit, il a travaillé 4 ans, 5 ans, 2 mois. C'est pour ça qu'une entreprise publique.
Alors la façon dont ça s'est fait, je vais faire très bref, hein, et ça me permet de rebondir sur ce que disait la jeune femme tout à l'heure, c'est des personnes qui ont commencé par des contrats de remplacement, d'accord, qui ont commencé par des CAE, et après on a pu, nous notre travail c'est aussi de dire, mais attendez, la personne a fait un CAE, ça s'est hyper bien passé, est-ce qu'il ne serait pas possible d'envisager des titularisations, hein, d'accord, donc il y a dans un premier temps une stagiarisation, d'accord, et après titularisation. Pardon ? C'est des gens qu'on accompagne. Enfin, moi, c'est des gens que j'ai suivis, que je suis. Enfin, pour un que je suis toujours, l'autre personne, c'est une collègue qui le suit. C'est des gens qui sont en collectivité. D'accord ? Mais il y a notre présence qui est là tous les mois. Aussi. Ça n'a pas toujours été simple. Hein. Ce n'est pas toujours une grande histoire d'amour. Hein. La collectivité, il faut savoir négocier. Il y a des services RH qui sont plus coriaces que d'autres. Hein. Et que des fois, moi, j'ai souvenir de réunions, je sortais, je transpirais. Hein. Parce qu'il a fallu renégocier, serrer. Des fois, on y allait à deux. Hein. Mais le fait est que la personne va mieux depuis qu'elle est en entreprise. D'accord ? Et elle est capable. Notre travail, c'est de dire, mais attendez, là, vous nous dites que ça ne va pas, mais elle est capable, la personne est là, ponctuelle. Elle fait son travail. Pourquoi lui chercher d'autres traces, quoi ? Ce qu'on demande, nous, à la personne, c'est d'être présente, d'être ponctuelle et de faire son travail. C'est ça, hein, le contrat de travail, hein, pour l'exécuter. Voilà. Mais après, bon, on fait pas, je ne sais pas, une quarantaine de titularisations par an, quoi. Mais celles qu'on a, elles sont réussies. Et ça, je crois que c'est important. Et on se rend compte que, pour une grande majorité des personnes qui sont en emploi, il y a moins d'hospitalisation aussi. Et ça, c'est les retours des médecins. Hein. Alors, non, parce que les personnes qui sont reconnues travailleurs handicapés, alors sont stagiaires un an, elles passent devant une commission, d'accord, qui évite les concours. Après, moi, j'ai des personnes qui ont fait le choix de passer des concours. Hein. Voilà. C'est un avantage. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, là, parce qu'on parlait pas mal du handicap. La reconnaissance de ce handicap, c'est là où nous, on le voit, nous, comme une aide, franchement, à la personne, en termes de ménagement organisationnel, en termes d'aide par rapport au concours de la fonction publique, notamment. Hein. Voilà. Non, parce qu'on peut demander pour des gens qui sont reconnus travailleurs handicapés des aménagements de durée de concours. Il y a toujours ça. Il faut bien retenir, enfin, nous ce qu'on essaie de voir, c'est que le handicap est vraiment contextuel. D'accord ? Par rapport au handicap psychique, c'est vraiment sur certaines situations qu'il va y avoir des difficultés. Par rapport à la mémorisation, par rapport à l'exécution d'une tâche qui va être plus ralentie. D'accord ? Bon. Ça ne définit pas la personne. Et ce n'est pas une étiquette, c'est le discours qu'on tient aux personnes qu'on accompagne. Hein, ce n'est pas marqué là, la personne fait cette démarche-là, on l'accompagne. Elle le dit en entreprise ou elle ne le dit pas. Ça va de ses responsabilités. Après, nous, les placements entre guillemets qu'on fait en entreprise, forcément, les personnes savent qu'il y a une reconnaissance travailleur handicapé, forcément.
J'ai vu un reportage dans le magazine de la santé, c'était une très belle C'était dans le ministère de l'Intérieur, enfin l'armée. C'était une infirmière dans l'armée et elle avait donc des troubles bipolaires. Et ça lui arrivait une fois, deux fois, trois fois. Et puis petit à petit, l'équipe s'est rendue compte que quand elle est comme ça, ben, il suffit de la calmer un petit peu et après elle reprend son boulot comme d'avant. Et ses compétences ne sont pas du tout atteintes. Et donc, elle expliquait ça au magazine de la santé, je ne sais plus quel mois, en fait, il y a au moins 3 ou 4 mois.
Mais je crois que ce qu'on va pouvoir proposer, quand on fait un accompagnement d'entreprise et qu'on rencontre un certain nombre de difficultés, on essaie de demander à la personne comment elle peut faire pour y remédier. Et souvent, la personne a les capacités pour trouver des solutions à ça. Hein, nous, ce qu'on fait, c'est retranscrire ce que vit l'entreprise et la personne va elle-même trouver. Si elle ne trouve pas, bien entendu, on va lui donner des pistes et essayer de mettre en place des outils. Hein, mais là, ce que vous dites, effectivement, la personne a des ressources, forcément, heureusement, pour adapter son rythme, adapter sa tenue au poste de travail.
Mais quand on entend parler de ces problèmes, ça a l'air d'être très nouveau.
Pardon ? Oui, c'est 2005, la reconnaissance.
C'est très nouveau. Et ça a toujours existé. C'est très nouveau.
Ce que je veux dire, on est tout petit, nous. Hein. C'est novembre 2004.
Moi, je suis d'accord avec vous. Tant qu'on traitera les malades psychiques... Bon, il n'y a pas que qui sont maltraités, hein, mais là, on est dans la semaine d'information de la santé mentale, donc on parle d'eux. Tant qu'on traitera les malades psychiques de la manière dont on les traite un petit peu mieux maintenant avec la loi et avec les organisations, on est dans le déni des droits de l'homme. Ça, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, madame.
Enfin, j'ai fait qu'un peu d'études, et peut-être on doit ça à notre grand ami René Descartes, qui a dit « Je pense donc je suis ». La plus grosse connerie monumentale. Et donc, on lui doit ce retard de psychiatrie. Merci à Descartes. Mais il y a Antonio Damasio qui a écrit le livre « L'erreur de Descartes » qui peut nous éclairer.
Est-ce... Se disent avec beaucoup de fierté, je suis cartésien.
Ah, ça peut avoir certaines valeurs aussi.
Alors, je reprendrai sur... Je ne vais pas parler de Descartes, hein, parce que je ne me sens pas suffisamment armé pour en parler. Mais par rapport à ce que disait madame, je crois que l'offre de services qu'on a pu développer en direction des entreprises, je disais tout à l'heure, mais vraiment rapidement, en fait, avec un financement de la direction départementale du travail, de la formation de tuteurs en entreprise. Donc, c'est des entreprises qui sont volontaires, hein, pour former des personnes qui seront référentes. Donc, c'est des entreprises qui ont envie de recruter un travailleur handicapé en situation de handicap psychique. On fait aussi de l'infosensibilisation. Alors, c'est nouveau. Je crois qu'on est, des rares en France à le faire. Hein. C'est pas être vantard que de le dire. Mais on essaie de travailler dans ce sens. Et le fait de le faire, c'est être militant aussi, en disant, voilà, il y a des gens, effectivement, qui sont mis sur le côté, alors qu'il y a des compétences qui sont mobilisables. Et c'est dommage de vous priver de ces rencontres-là. Parce que je le redis encore, 93% des entreprises qui ont recruté des travailleurs handicapés sont satisfaites de ce recrutement-là.
J'ai eu un très beau témoignage sur Mercedes qui a recruté, bon, ce n'est pas tout à fait ça, mais une trisomique au niveau... c'était un bien pour toute l'entreprise.
Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose parce qu'on...
Non, ce qu'on espère, c'est... Alors, c'est un peu brouillon, peut-être, mais c'est...
Non.
On espère, c'est avoir apporté des réponses à vos questionnements et simplement vous dire qu'on aurait pu arriver avec un guide tout fait, tout propre, mais que ça ne se passe pas comme ça en entreprise et qu'on s'adapte en fonction des interlocuteurs, alors que ce soit les entreprises qui soient dans le même secteur de production, forcément, le RH sera différent ou le chef d'équipe sera différent. Donc, on s'adapte en fonction de chaque personne. Et en fonction de chaque personne qu'on accompagne aussi. Voilà. Donc on ne peut pas avoir de règles préétablies, ce qu'on peut dire.
bien que je sois ici ce soir pour vous accueillir au nom de l'Espace Mendès France, il se trouve que depuis une quinzaine d'années, je suis modérateur dans un colloque qu'on organise tous les 2-3 ans dans l'abbaye de Noirlac sur le handicap à la fois physique et mental qui n'est pas psychique. Donc j'ai une petite expérience, j'interviens en tant que conférencier, et non pas professionnellement parce que ce n'est pas du tout ma profession, c'était entièrement du bénévolat. J'ai été tout à fait passionné par ce débat et cet éclairage sur quelque chose que je n'avais jamais abordé, le handicap psychique. Mais à mon sens, avec les connaissances que je peux avoir, il faut beaucoup d'humilité pour travailler avec des gens qui ne sont pas anormaux. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que votre intervention a commencé par une réflexion de Comte Sponville qui disait on parle du chômage malheureux, du chômeur malheureux, mais qu'est-ce que c'est que le travailleur heureux ? Le travailleur heureux, c'est d'abord un homme qui a, à travers le travail et à travers sa vie, une dignité. Et ce qui est très, à mon avis, à mon sens, le mot dignité n'a pas été prononcé. Mais la dignité, c'est de, non pas d'effacer les handicaps, parce que ce n'est pas possible dans l'état actuel des connaissances scientifiques et médicales, mais c'est de l'atténuer. Pour ça, il faut apporter beaucoup d'humilité et beaucoup d'amour. Donc dignité, amour, c'est des choses qui conviennent. Bon. À partir de cette constatation, bon, il est possible de faire travailler les gens parce que le travail, c'est quand même une dignité, quoi qu'on dise. Et on leur apporte un bonheur. Et qu'est-ce qui est important pour l'homme ? Madame ou mademoiselle a parlé tout à l'heure de Descartes. Descartes, comme tous les gens qui sont des grands hommes, entre guillemets, on leur fait dire des choses qu'ils n'ont jamais dites, ou pire, qu'on n'a pas comprises. Cette petite parenthèse fermée, moi je suis très heureux de vous accueillir ce soir. Vous faites du bon travail. Même si vous le faites en tant que salarié, on peut y mettre un peu d'amour, un peu de fantaisie aussi, parce que vous savez, moi, je ne sais pas ce que c'est que la normalité. Qu'est-ce que c'est que la normalité ? Ça, voilà la grande question. Parce que quand on voit certaines attitudes de gens dits normaux, que nous sommes tous, on doute parfois, dans les circonstances de la vie, de leur normalité. Alors, il faut être extrêmement modeste. En tout cas, je vous remercie d'être venu ce soir à Mendès France. Vous m'avez fait plaisir. Je transmettrai à notre président Mario Cotron ce que j'ai entendu et ce que j'ai vu ce soir. Et je vous remercie absolument tous, les intervenants et les assistants.
Merci. Je voudrais juste rajouter par rapport à cette notion d'amour, de simplement, ce qu'on essaie, je crois, ce qu'on a en tête, c'est qu'on n'accompagne pas que des demandeurs d'emploi. Je veux dire, le travail, il se fait parce qu'avant tout, c'est une rencontre. Hein ? Et je crois que la rencontre se fait et on prend du plaisir à accompagner la personne dans une redéfinition de son projet de vie, parce que le travail, je crois que c'est son projet de vie qui va être redéfini au travers de son travail. Hein ? Et je crois qu'effectivement, la rencontre, même si ce n'est pas dit comme ça, c'est une rencontre avant tout. Et l'accompagnement peut se faire parce qu'il y a cette accroche aussi. On essaie d'humaniser au maximum, bien entendu.
Merci d'être venu nous écouter ce soir et partager ces réflexions avec nous. Merci à Patrick Gentil et à Magali Coulombier de nous avoir livré avec toute cette passion leur travail formidable du quotidien. On vous donne rendez-vous demain à 18h30 au Dietrich pour continuer à réfléchir sur ce qu'est normalité ou différence, ce qui est étranger ou pareil, avec les deux beaux films de Jean-Michel Carré, Visiblement je vous aime, et puis passionnément Beaucoup à la folie. Donc à demain Auditriche et puis peut-être après à l'UNAFAM pour ceux qui souhaitent adhérer. Alors il y a aussi une invitation à, parce qu'à l'UNAFAM on ne fait pas que réfléchir mais on peut prendre aussi du plaisir, ça nous aide à être plus fort pour aider. Donc Martine, pour se détendre, chante.
Donc c'est vrai que moi j'ai eu envie de faire partager avec vous ce que je vis à travers la chorale de Châtellerault qui s'appelle Chantellerault. Et en ce moment, comme nous avons un concert sur Brel qu'on a donné déjà sur Châtellerault, la chorale est tout à fait d'accord et très heureuse de venir vous présenter ce programme-là. Donc c'est à la salle socio-culturelle de Sommières-du-Clain. Le 7 mai 2010 à 20h. Alors, il y aura une première partie, ça ne sera pas Brel, ça sera une invitation au voyage avec des chansons sur ce thème. Et la deuxième partie, ce sera Brel. Voilà. Donc, on vous y attend tous. L'entrée est gratuite, et, mais bien sûr, il faut penser à l'UNAFAM. Donc, on demandera un petit quelque chose pour l'UNAFAM. Librement, voilà.
Bonne soirée.